rapidité. Si tu inclines la tête de façon à la regarder sous le bon angle, celle dans le coin prend l'apparence d'un éléphant. C'est le grand jour, annonces-tu en pensée à la cloque de peinture qui forme la trompe. Le grand jour. L'éléphant sourit comme s'il connaissait un terrible secret. Tu as passé un nombre incalculable d'heures à t'exercer pour reproduire cette expression à l'identique, pour pouvoir rendre sourire pour sourire à l'éléphant au plafond. Aujourd'hui, elle te vient tout naturellement. L'éléphant et toi, vous vous souriez jusqu'au moment où la réalité de cette matinée établit entre vous une complicité exaltante. Vous avez l'air aussi cinglés l'un que l'autre. Tu poses les pieds par terre, soulèves ton corps du matelas et enfiles les chaussures réglementaires, des espèces de pantoufles noires trop larges qui ne tiennent pas aux pieds. Tu fais couler l'eau du robinet en métal sur ta brosse à dents, étales dessus une couche de dentifrice en poudre granuleux, puis mouilles tes cheveux devant le petit miroir dont la surface polie n'est pas du verre, mais un rectangle d'aluminium balafré, criblé de trous, qui ne volerait pas en éclats s'il se brisait. L'image qu'il te renvoie est floue, toute gondolée. Tu te mordis les ongles au-dessus du lavabo, l'un après l'autre, arrachant avec soin le blanc jusqu'à ne laisser sur chacun qu'une même bordure déchiquetée au ras de la peau. C'est souvent le compte à rebours qui est le plus difficile à supporter, a dit l'aumônier quand il est venu te voir hier soir. Tu l'aimes bien, cet homme dégarni qui se tient voûté comme sous le poids d'un sentiment accablant. Peut-être la honte. Arrivé depuis peu dans l'unité Polunski, il a un visage mou, malléable, si ouvert que, pour un peu, on plongerait la main dedans. Il a parlé de demander pardon, de se soulager d'un fardeau, d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Et pour finir, la question. Votre témoin, a-t-il dit à travers la vitre du parloir. Cette femme, elle va venir? Tu t'es représenté la lettre posée sur l'étagère dans ta cellule exiguë. L'enveloppe crème, une invite. Dans le regard de l'aumônier se lisait une sorte de pitié sans phare. Tu as toujours pensé que la pitié était le plus insultant des sentiments. La pitié, c'est une force destructrice dissimulée derrière un masque. Elle te dépouille de tout, te ratatine. Oui, elle vient, as-tu répondu. Puis, vous avez un truc coincé entre les dents. Tu l'as vu porter vivement une main à sa bouche. En vérité, tu n'as pas beaucoup pensé à cette fin de journée. C'est trop abstrait, trop facile à contourner. Inutile d'écouter les rumeurs qui circulent dans le quartier 12. Elles n'en valent jamais la peine. Un des gars, gracié 10 minutes seulement avant l'injection, alors qu'il était déjà sanglé sur le brancard, a raconté quand il est revenu qu'on l'avait torturé pendant des heures en lui enfonçant des tiges de bambou sous les ongles, comme s'il était le héros d'un film d'action. Un autre a affirmé qu'on lui avait offert des donuts. Tu préfères ne pas t'interroger. C'est normal d'avoir peur, a dit l'aumônier. Mais ce n'est pas de la peur que tu éprouves. Plutôt une sorte d'émerveillement vertigineux. Ces derniers temps, tu rêves parfois que tu t'envoles dans un ciel d'un bleu limpide, loin au-dessus de vastes étendues de cultures concentriques. En altitude, tes oreilles se débouchent. Tu as avancé de 5 minutes la montre dont tu as hérité dans le module C. Tu n'aimes pas être pris au dépourvu. Elle te révèle qu'il te reste 11h23 à vivre. On t'a assuré que ça ne ferait pas mal, que tu ne sentirais rien. Un jour, une psy en tailleur-pantalon impeccable, lunettes coûteuses sur le nez, s'est assise en face de toi au parloir.